Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus victorieux ce matin? Quel cadeau merveilleux d'avoir Jésus, celui qui a vaincu la mort pour nous. C'est tellement bon de pouvoir le célébrer. Merci à l'équipe qui nous a conduits dans ce moment. C'est une joie pour moi de vous accueillir nombreux ce matin. C'est très bien de se retourner et puis de voir l'église pas mal pleine. Merci d'être là, merci pour vous qui êtes aussi en ligne. Ce matin, on a, c'est vrai, un culte particulier pour remercier Benny Reddickson et sa famille pour tout son investissement à l'escale. Mais avant, j'aimerais quand même poursuivre ma série de prédications, saisir des victoires. Est-ce qu'on peut afficher le... Bah, je vais le faire depuis là. Tac. Ça devrait fonctionner, voilà. On va continuer cette série « Saisir des victoires » et puis aujourd'hui, on va parler de la colère. On a déjà vu pas mal de choses. On a parlé de la dépression, de l'orgueil, de la culpabilité, de l'insatisfaction. Puis aujourd'hui, de la colère. Et puis j'ai trouvé ça cool, en fait, de terminer cette série de messages sur la colère et puis en même temps de célébrer Reddickson aujourd'hui, de le remercier. Parce que Reddickson, eh ben, il a dû prendre des victoires sur la colère, c'est sûr. C'est sûr que le Saint-Esprit a travaillé son cœur. Vous connaissez Reddickson, il a grandi dans un milieu pas tout simple au Venezuela. Quand il me raconte un peu, c'est vrai qu'on a de la peine à imaginer, nous qui avons vécu notre petite scolarité en Suisse, tout tranquillement, où rater une période était punissable par la loi parentale. C'est un autre contexte avec beaucoup de violence. Et puis, donc c'était monnaie courante pour lui. Et non seulement Jésus-Christ a changé son cœur, mais il a aussi compris qu'il y a des moyens positifs qui nous permettent d'évacuer nos émotions, telles que la colère, pour ensuite en traiter la racine. Et c'est justement ce qui se passe aussi à Box Up Crime, donc boxer la criminalité. On propose à des jeunes de venir ici pour sortir de manière positive ce qu'ils ont dans leur ventre. Et c'est tellement précieux, tellement bon. Dans un climat sécurisant, dans une boxe sans combat. Bizarre, de la boxe sans combat. Alors, il y a eu un petit reportage tout récent, et j'aimerais commencer mon message en regardant avec vous ces quelques minutes, qui sont aussi une manière de remercier Reddickson et toute l'équipe qui travaille avec lui. Alors, ça dure environ 5 minutes. Vous êtes là avec moi, tac. On démarre.
Mauvaise humeur. À Yverdon, une équipe de l'association Box Up Crime, qu'on peut traduire par « boxer la criminalité », propose un programme qui mélange boxe, j'arrive pas à le faire bouger ce truc, et découverte des valeurs chrétiennes. Tout commence en Angleterre avec un homme, Stephen Haddison. Il a des problèmes de délinquance, mais à 20 ans, il découvre la foi et ça change radicalement sa vie. Ce passionné de boxe décide alors de mettre sur pied en 2013 cette association. Des centaines de jeunes Anglais, mais pas seulement, peuvent pratiquer la boxe dans un cadre sain. En Suisse, c'est à Vevey, Moudon et Yverdon-les-Bains que ça se passe. C'est parti!
J'ai adoré dès le premier entraînement.
On se tape pas les uns les autres, c'est toujours sans contact.
L'ambiance m'a mis une grosse claque, parce que c'est incroyable, c'est très familial. Il n'y a pas de compétition de niveau... On fait juste pour nous, on se défoule et il n'y a pas vraiment. On ne doit pas avoir peur ou être jaloux des autres.
Le concept est né en 2013 à Londres. Fondé par Stephen Haddison, ancien membre de Gang, Box Up Crime est un lieu accessible à tous, quel que soit son arrière-plan. Aujourd'hui, ils sont des milliers à participer aux sessions, un effort salutaire pour la collectivité que même le prince Harry a salué par sa présence royale. En Suisse, l'aventure a démarré à Moudon et c'est à l'automne 2019 que Box Up Crime Yverdon ouvre ses portes. Depuis, ils sont nombreux chaque jeudi à se rendre dans les locaux d'une église qui, le temps d'une soirée, se transforme en salle de boxe.
En fait, ça est né de quelque chose. J'ai fait la boxe depuis que je suis très très jeune, depuis 13 ans. Et puis, c'est vrai que je me suis toujours, comment est-ce que je peux maintenant utiliser des choses que j'ai apprises sur la boxe dans un contexte aujourd'hui d'une manière actuelle avec tout ce qui vit ces jeunes. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a parlé des Moudon qui faisait Box Up Crime. Et puis il dit, mais je vais maintenant m'intéresser. Je suis allé plusieurs fois là-bas, j'ai rencontré les responsables et puis je trouvais super intéressant ce qu'ils faisaient sur place avec tous les jeunes qui venait dans ces moments-là. Et puis, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il me faut. Et puis, je me suis dit, allez, on y va, et puis on le fait.
Quand j'ai vu ces jeux, là, Moudon, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, je me suis dit, allez, Marc, on y va. Parce que ma profession, c'est en fait agriculteur. Et puis, je suis pas du tout dans la boxe, rien à voir. Et puis, je me suis dit, ah, je vais jamais pouvoir boxer, comment faire, Mais voilà, je me suis dit, je me lance avec Eddickson et puis avec l'équipe qu'on a. Et puis voilà, ça m'amène beaucoup, ce boxe.
En fait, j'ai fait du Krav Maga étant jeune. Depuis 4-5 ans, j'en ai fait. Et puis j'ai appris à avoir confiance en moi, que le sport de combat, les sports de combat ne pouvaient pas être que des simples brutes qui se tapaient dessus. Et puis pouvoir donner ça gratuitement à des jeunes, dans un cadre sécurisé, aimant, tout ça, ça m'a paru extraordinaire comme projet, donc j'ai signé tout de suite.
L'équipe se compose de 5 coachs, tous très motivés, venant d'horizons très différents. Ce sont des valeurs comme l'amitié ou encore la foi qui les unissent.
En fait, les coachs, on a la même foi, en fait, on est chrétiens. Et du coup, c'est ça qui nous relie entre coachs et ça nous permet d'avoir des valeurs communes et d'avancer dans le même sens dans le projet. Donc pour moi, c'est ça qui nous relie. Et après, au niveau des jeunes, on ne va pas leur parler directement de notre foi, mais de valeurs qui sont importantes pour nous, en fait. On essaie de transmettre des choses positives.
Pour nous, c'est une culture, c'est toute une manière de faire à s'approprier une famille. Et puis, on voulait vraiment donner ces côtés des familles ensemble, en tout cas.
Vous l'aurez compris, boxer n'est que le point de départ. L'action est véritablement d'encourager. Selon le fondateur, Steven Addison, reconstruire les rêves brisés est le but ultime de Box Up Crime.
J'ai rencontré des personnes, j'ai pu parler avec des personnes et puis ils m'ont aidé, ils m'ont donné des conseils et puis ils m'ont dit de... Ils m'ont donné plein de conseils et puis du coup ça m'a beaucoup aidé à changer et puis à améliorer ce qui n'était pas bien.
Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très bienveillant comme endroit. Il n'y a pas de jugement. C'est un des seuls endroits où quand je fais du sport, je ne me sens pas forcément jugé.
C'est incroyable, moi je trouve vraiment l'ambiance, les personnes, ils sont tous super gentils et ils ont tous accueilli dès la première arrivée.
Ça a été un plaisir de passer cette année avec vous, de voir un peu les nouveaux aussi qui sont arrivés dans l'année, de voir les anciens qui restent, c'est génial en tout cas.
Après l'effort, le réconfort. À la fin de chaque session, un temps appelé « Circle Time » permet de clôturer la soirée.
C'est des moments d'encouragement pour les jeunes. Donc on essaye d'aborder des sujets qui nous semblent importants et on pense qu'ils sont importants pour eux aussi. On leur parle de notre expérience, de nos combats, de nos réussites ou de ce par quoi on est passé dans nos vies. Et pour que ça puisse peut-être leur apporter quelque chose et les faire avancer dans leur vie, quoi. C'est vraiment des choses positives qu'on essaye de leur transmettre.
En Thaïlande, il y a toujours la cérémonie avant chaque combat pour la boxe. Il y a beaucoup de respect envers le coach. Et ici, c'est la même chose. Quand les jeunes ils viennent, ils sont très respectueux. Ils disent bonjour, au revoir. Quand on passe ce moment de circle time, justement, toujours on ne se coupe pas la parole, on parle... Les gens viennent, ouais, vraiment, il y a beaucoup de respect et j'apprécie ça.
Je suis passionné.
Voilà, on va arrêter là, on va applaudir ce beau projet. Alors maintenant, vous savez pourquoi vous enlevez les chaises. On vous demande souvent d'enlever les chaises à la fin du culte. Maintenant, c'est au moins clair pour vous. Et puis, vous savez, vous pouvez même prier pour ces jeunes alors que vous enlevez les chaises. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui prend place ici. Alors, la boxe sans combat, ça paraît un petit peu paradoxal, non ? Non ? Enfin, moi, la boxe sans combat, c'est vrai que ce n'est pas l'image que j'avais. Enfin, la boxe, c'est forcément du combat. Eh bien non, vous avez vu que c'est possible autrement. Et puis, pour moi, c'est un peu comme ce verset d'Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Ça me paraît aussi un peu paradoxal. Est-ce que vraiment on peut être en colère sans pécher? Parce que se mettre en colère, on a tous cette image, cette connotation négative, où le fait d'être en colère, c'est déjà péché pour la plupart d'entre nous. Et puis, Paul semble dire qu'être irrité, être en colère, et on peut l'être sans pour autant pécher. Ça, c'est peut-être la première victoire d'aujourd'hui. Il est possible d'être en colère sans pécher. Donc, prenez cette victoire. Alors, on va comprendre qu'en fait, dans la péricope, dans les versets qui entourent ce verset 26, ben, Paul est en train de parler de la nouvelle vie en Christ. Et on va lire ensemble depuis le verset 17, Éphésiens donc 4, depuis le verset 17 au verset 32. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Ça a le mérite d'être clair. « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Amen. 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 C'était timide. Hein. Belle parole. Alors Paul rappelle cette différence qu'il doit y avoir lorsqu'on connaît Christ. Puis des fois, c'est peut-être bien de se le rappeler, hein, parce qu'on a quand même cette mauvaise tendance à repartir des fois dans nos travers. Mais il y a une différence marquée lorsqu'on rencontre Christ. C'est un processus, mais le Saint-Esprit transforme notre cœur. Notre comportement change. Alléluia. C'est tellement bon. Et Paul termine en disant qu'il n'y ait pas de colère, pas même d'éclat de voix. Puis là, on se dit, ah, quand même, pas de colère, pas d'éclat de voix. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais des fois, nous, on pourrait mettre ce t-shirt, je gueule pas, j'explique. Je ne sais pas que les enfants, on a cette tendance hein, d'expliquer les choses d'une manière assez bruyante, mais on explique, hein, faut pas s'inquiéter. Alors, on pourrait mettre des fois ce t-shirt-là. Mais il semble avoir une contradiction entre ce verset 26 et ce verset 31. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, puis après, qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas même d'éclat de voix. Comment c'est possible? Comment comprendre cela? Et il faut simplement regarder un petit peu dans la distinction dans le grec, parce qu'on ne le voit pas dans le français, mais ce n'est pas les mêmes mots. Il y a une gradation dans les termes. Alors le verset 26 nous parle en fait du mot orgizo, c'est irritation, provocation à la colère. Et puis le verset 31, c'est le terme orgé qui traduit une émotion violente, une indignation. Donc la colère virulente quoi. Donc il y a une gradation. Et puis moi je vous ai mis un petit escalier qui descend parce que j'ai pas l'impression que peut-être qu'on monte puis on a envie d'exploser, mais en fait le résultat c'est plutôt qu'on descend à la cave. Hein. On est en train de creuser profond. Alors, il y a une gradation, et puis on peut effectivement mettre des stades à la colère qui s'accompagnent d'ailleurs de changements physiologiques. Hein. Vous remarquez probablement, quand vous êtes juste un petit peu irrité, c'est relativement tranquille, mais quand vraiment vous entrez dans une colère, il y a tout qui change. Hein. Donc dans la chimie de votre cerveau, il y a des hormones qui sont libérées, vous avez le cœur qui bat, le sang qui chauffe, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a effectivement des grades. On pourrait parler du premier stade, qui est le stade de l'irritation. Hein. Et moi, j'aime bien l'exemple de la peau irritée. Si vous avez une peau irritée, il y a une sensibilité exacerbée. Donc, on vous caresse le bras, même gentiment, ça commence à vous déranger. Hein, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein, vous faites une petite caresse à votre conjoint, vous êtes tout chou, tout motivé, puis on sent que d'un coup, ça crispe. Il y a quand même une irritation. Ça, c'est le stade 1, d'accord ? Mais c'est intéressant de connaître les stades parce que ça nous permet aussi de voir où on en est et puis peut-être de redescendre le niveau. Alors, il y a ensuite le deuxième stade, c'est le stade agacé. Hein, donc la situation, il y a une récurrence. Hein, des fois, si on est fatigué, par exemple, vous avez un bruit qui se répète, hein, il y a un agacement. Hein, au début, ce bruit pourrait nous irriter, mais quand ça revient, il y a un agacement. On sent que gentiment, ça commence à m'énerver ce bruit, hein, ça commence à monter là. Mais on arrive encore à se contenir à ce moment-là. On commence à le faire savoir dans le non-verbal. Hein, donc ceux qui sont proches de vous, ils comprennent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se tramer là. Alors il faudrait mieux arrêter le bruit. Le stade 3, c'est donc vraiment la colère. Vous êtes énervé, vous êtes mal, votre cœur donc bat plus vite. Et puis là, vous allez imploser ou exploser. Ça dépend, mais en tout cas, c'est juste sur le ballon là, c'est le stade 3. Et puis le quatrième stade, c'est vraiment là où vous êtes furieux, vous êtes véritablement furieux, vous perdez le contrôle, vous ne maîtrisez plus vos mots, vous le manifestez, vous tapez du pied, c'est clair, là vous êtes vraiment en colère. Et puis on pourrait rajouter le cinquième stade, c'est le stade expert là, d'accord, c'est le haut niveau. Alors là, ce serait vraiment la rage, qui est vraiment une rage violente et qui s'en prend aux autres. Donc là, ça devient vraiment méchant, ça devient violent aussi envers les autres. Ça peut ne pas rester juste à des paroles, mais passer aussi à des actes, malheureusement. Alors, au verset 26, on est plutôt entre le stade 1 et 3. D'accord ? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. D'accord ? On est plutôt dans le stade 1 et 3. C'est acceptable encore. On peut le maîtriser à quelque part. Hein, on est dérangé, on est irrité, mais on le maîtrise. Cette colère, elle peut être justifiée ou injustifié, évidemment. Mais on a un choix à faire. Comment vais-je gérer ce que je suis en train de ressentir là ? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Pour que ce soit moi qui gagne et pas la colère qui gagne. Alors on apprend donc à reconnaître, c'est intéressant d'apprendre à reconnaître qu'est-ce qui vous irrite. C'est quoi qui pourrait me faire passer d'un stade à un autre ? Moi, il y a des petits trucs qu'on apprend. Hein. Moi, j'ai réalisé en fait que je m'énervais des fois dans les magasins. Enfin, c'est ma femme qui a réalisé. Vous allez dire, c'est normal, je suis un gars, on n'aime pas trop le shopping. Non, en fait, il y avait autre chose. C'est que quand j'ai trop chaud dans un magasin, ça commence à m'énerver. C'est incroyable. Et puis, au bout d'un moment, ma femme, elle se dit, mais en fait, pourquoi à chaque fois qu'on est dans un magasin, elle commence à s'énerver ? Alors maintenant, elle est chou, elle me fait... Chérie, enlève ta veste. Comme ça. Et puis après, ça redescend. C'est un truc tout bête, mais c'est vrai qu'en fait, moi, ça m'énervait, ça la stressait. Puis après, ça augmente dans les stades. Et puis finalement, moi, je vais boire le café, puis elle finit les courses. Donc, on a réussi à trouver le déclencheur. Alors, la colère, c'est vrai, c'est une émotion, mais qui a pour racine un fort sentiment d'injustice, souvent. Et je le crois pertinemment, votre colère, elle ne vient pas de nulle part. Elle a généralement une racine. Vous réagissez à une situation car elle vous ébranle. Quelque chose en vous est dérangé par ça. Ça vient peut-être faire une situation qui vient peut-être faire écho à votre vécu, à votre passé. Elle peut aussi toucher votre fierté. Hein, quand on est touché, piqué dans notre orgueil, il y a quelque chose qui nous énerve. Ça peut être une situation qui est en profond désaccord avec nos valeurs et avec notre foi. Il y a des choses qui nous mettent en colère. Moi, je suis énervé, je suis fâché contre Satan, je suis fâché contre le péché. Est-ce que c'est mal? Non. Soyons fâchés. Soyons un peu fâchés contre l'ennemi qui fait des ravages et qui divise. Il y a des situations d'injustice qui devraient nous faire réagir un peu quand même. Non? Vous êtes d'accord? Je pense. Mais et lorsqu'on est témoin de situations de comportements inadéquats, de mensonges, de violences, de blasphèmes, eh bien oui, on ressent cette colère monter en nous. Ah, moi, j'ai de la peine quand on critique mon Dieu, quoi, hein, quand on dit des choses méchantes sur Dieu, sur les chrétiens. Il y a une colère qui monte. Après, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui est important. Donc cette colère, elle ne doit pas être nourrie. Elle ne doit pas laisser place au diable. Elle ne doit pas passer au stade supérieur. Et je trouve que ce verset est un super encouragement pour les conflits de couple. Hein. On l'utilise souvent. Il faut régler le conflit avant le coucher du soleil, nous le dit le texte. Hein. Il ne faut pas dormir sur notre colère. Moi, je trouve que c'est un très bon principe. Si vous êtes énervé aujourd'hui avec votre conjoint, même avec vos enfants, réglez les choses avant d'aller vous coucher. Ne vous faites pas le bouder chacun du côté de son lit, là, comme ça. Hein. Non, réglez ça. Parce qu'en fait, la colère risque de dégénérer. Elle risque de passer au stade supérieur. Paul nous dit qu'un chrétien qui s'est débarrassé de son vieil habit, de son vieil homme, pour revêtir Christ, ne devrait pas atteindre cette zone rouge, ces stades 4 et 5. Il ne devrait pas arriver là. Alors on va voir comment dans quelques instants. Mais il est intéressant de relever donc cet accès au diable. C'est comme si les premiers stades, on peut parler d'une émotion à maîtriser, mais au-delà du stade 3, c'est comme si le diable s'empare de cette colère qu'elle a et puis commence à faire des ravages, commence à faire des dégâts. Puis moi, je ne veux pas laisser l'accès au diable. Et vous? Moi, je ne veux pas laisser place à l'ennemi. Mais il semble donc possible d'avoir une frustration, un agacement, sans pour autant pécher. Et ce qui signifie, je le rappelle, un péché, c'est rater la cible. Dans ce même sens, Jacques nous dit au chapitre 1, versets 19 et 20, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Il utilise le même terme ici qu'au verset 31, orgé, donc une colère, une vraie colère, une colère violente. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et puis là, il y a une clé à saisir. Si on n'accomplit pas la justice de Dieu, on rate la cible, les amis. On passe à côté. Mais s'il y a la colère de l'homme, il y a aussi la colère de Dieu. Il est bien ici question de colère de l'homme. Alors la colère de Dieu, c'est quoi? La colère de Dieu, elle est parfaitement juste. Il est toujours juste dans sa colère. Elle est dans son expression, au point qu'il a même donné son propre fils pour que nous ne subissions pas sa colère pour notre péché. Mais nous ne pouvons pas être parfaitement justes dans notre colère. Cette violente colère ne peut aucunement exprimer la justice de Dieu. Ce n'est pas possible pour un homme né dans le péché humain d'avoir une sainte colère, une parfaite colère, et de l'exprimer juste au bon moment, au bon endroit, exactement comme il faut, comme Dieu l'aurait fait. Ce n'est pas possible. La colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. C'est certain. Au contraire, la justice de l'homme, elle détruit les relations. La colère de l'homme, elle détruit les relations, elle blesse en profondeur, elle fait mal, elle ne représente pas qui est Christ. Pourtant, j'ai envie de dire, qui n'a jamais passé cette barre? Qui pourrait dire ce matin, vraiment jamais, j'ai jamais pété un plomb, j'ai jamais passé le stade 3? Personne ne peut dire ça. Alors bon, peut-être vous vous dites, ben oui, enfin moi ça m'est arrivé une fois ou l'autre, mais bon, de là avoir besoin d'une libération, besoin d'en parler, enfin, faut pas pousser quoi, d'en faire une prédication, c'est quand même un peu gros quoi. Bon, réflexion légitime. C'est évident que la fréquence de vos colères devrait effectivement être un indicateur important. Si cela est régulier, si vous passez du stade 1 au stade 4 en 3,2 secondes. Hein, c'est pas le 0 à 100, là, c'est du stade 1 au 4. En un coup, vraiment, il y a un changement comme ça. C'est quelque chose de virulent, de violent. Personne ne s'attend. Si vous avez l'impression de perdre le contrôle, hein, de plus avoir le contrôle, d'être dépassé par la colère, que ce n'est même plus vous, ben, il y a effectivement peut-être un besoin de libération. Ça, c'est des signes. C'est clair. Ne restez pas seul avec ça. On peut en parler aujourd'hui, on peut prier, on peut se revoir. C'est pas un problème, parce que Dieu veut s'en occuper. Mais de ma petite expérience, je constate que l'on sait assez bien reconnaître en nous-mêmes une colère qui est juste ou une colère qui est injustifiée. Est-ce que vous arrivez à faire la différence ? En vous, quelque chose qui se passe. Hein ? On sent quand c'est une colère qui est maîtrisée ou que c'est une colère qui est violente, qui est anormale, qui est excessive, et puis qui n'est évidemment pas de Dieu. Mais ce qui est important ce matin, puis que j'aimerais vraiment redire, c'est que notre Seigneur ne désire pas nous laisser avec nos colères. Il n'y a pas de jugement ou de culpabilité à avoir. Il veut nous aider. Il veut nous aider à nous libérer ce matin. Il désire nous faire grandir. Il désire que rien ne reste de ce vieil habit. Lui, il a donné sa vie. Il ne veut pas qu'on garde ce vieil habit. Il aime vraiment nous donner ce nouvel habit. Donc finalement, peu importe la fréquence de nos colères, il désire œuvrer en nous, ça c'est absolument sûr. Puis des fois, d'accepter, hein, de réaliser que effectivement, peut-être que quand je me mets en colère, c'est pas normal. C'est quand même le stade qui est un peu high level. Alors ça, c'est le début de la guérison, c'est le début du changement. C'est juste accepter que oui, hein, des fois on se dit « ouais, mais c'est mon caractère ». Ce n'est pas un caractère sanctifié, ce n'est pas un caractère racheté, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me conduit là. Il veut en faire quelque chose. C'est OK. Jésus agira ce matin. Donc j'aimerais partager maintenant trois pistes simples pour remporter une victoire sur la colère. C'est des pistes toutes simples. La première, c'est redonner à Dieu. On a vu que notre colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors une manière de remporter la victoire est de lui donner cette colère, ainsi que son déclencheur, finalement, ou la source de cette colère. Et on lit en Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. » Vous voyez, la colère de Dieu, la colère de l'homme, la colère de Dieu. « Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Donc, laissez agir la colère de Dieu qui est parfaitement juste. Si vous réagissez avec une colère pour une raison justifiée, ben lui est le Dieu parfaitement juste. Lui va s'en occuper. Si vous réagissez parce que vous êtes blessé dans votre fort intérieur, parce que ça vient faire écho à des choses pas réglées, là aussi, donnez-lui. Il va s'occuper de vous. C'est le bon berger, il va prendre soin. Donnez-lui votre colère, non seulement en lui disant cette colère, mais en parlant de la raison de votre colère. Pourquoi je suis en colère ? Et puis dans un deuxième temps, vous pouvez essayer de cerner le déclencheur de votre colère, puis le donner au Seigneur. En fait, je réalise que c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'agace. Donc c'est un super exercice dans cette semaine. Qu'est-ce qui vous irrite ? Qu'est-ce qui vous agace ? Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds ? Essayez de creuser un petit peu. Pas juste c'est le bruit des enfants. Non, mais le bruit des enfants, ça fait quoi ? Pourquoi ça vous énerve comme ça ? Il y a encore autre chose, il faut aller un petit peu plus profond. Donc il faut comprendre pour pouvoir briser le schéma, couper la racine de cette colère qui monte, et puis simplement y remédier par des actes très concrets, comme je l'ai dit, sachant que la chimie de votre cerveau n'y est pas pour rien. Hein, donc peut-être que faire du sport ou taper dans un sac, venir à Box Up Crime un moment, là ça peut vous faire redescendre votre taux d'hormones, de cortisol ou d'adrénaline, que vous pourrez ensuite travailler sur vous-même. Il faut un moment que ça redescende. Hein, donc il faut parfois l'exprimer d'une manière positive. La deuxième piste, c'est évidemment la maîtrise de soi. Deuxième piste pour remporter la victoire, c'est continuer à laisser le fruit de l'esprit grandir en nous. Alors c'est une piste utile pour tout. Hein, laisser le fruit de l'esprit, c'est vraiment lui qui transforme nos vies, c'est la base. En Galates 5, 20, nous avons une liste qui n'est pas exhaustive des œuvres de la chair, vous la connaissez certainement très bien. Hein, c'est des actions, des comportements que nous faisons avec le vieil habit. Et puis, la colère en fait partie. C'est noté. Galates 5, 20, vous pourrez lire, il y a la colère, c'est sûr. Puis ensuite, il est question du fruit de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas d'ailleurs d'œuvre, mais c'est la manifestation du caractère de Dieu par le Saint-Esprit dans notre vie qui va inéluctablement influencer nos actions. La maîtrise de soi, c'est le fruit produit par l'Esprit dans ma vie. La maîtrise de soi, je crois que c'est une antidote à la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Pour cela, on a besoin du fruit de l'Esprit. Donc ce fruit, il est présent si l'arbre a des racines qui s'étendent, comme dans le psaume 1, hein, ces racines qui s'étendent vers la source d'eau. S'il y a un bon fruit, le fruit de l'Esprit, s'il y a une bonne exposition à la lumière. Donc finalement, en d'autres termes, votre relation avec Dieu, elle est primordiale, encore une fois. On ne peut jamais faire sans cette relation avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui fait vraiment la différence. C'est la place de l'Esprit en vous. Troisième piste, la victoire sur la colère s'obtient aussi par le pardon. Puis d'ailleurs, dans notre texte, il est exprimé au verset 32, hein, donc il y a ce passage sur la colère, puis là, « Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Donc évidemment, notre colère, elle est souvent tournée vers les autres, et elle vient souvent de ce qu'on nous a fait. En ce sens, le pardon devient évidemment capital. Lorsque je pardonne, ça veut dire aussi que j'abandonne. J'abandonne ma colère, j'abandonne ma rancune, mon désir de vengeance. Je lâche ma hargne. Et puis c'est un poids qui s'en va. On dit le pardon me libère moi-même. Il y a quelque chose qui se passe lorsque je peux pardonner, et puis il y a de nouveau la place pour la paix. En tant qu'on ne l'a pas fait, c'est un peu comme si on serre les dents. Il y a quelque chose qui reste, mais bon, les autres, ils ne le voient pas. Hein, c'est souvent bien caché. Ça va, on a le sourire évangélique. Hein, mais au fond, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Alors, quand on est avec les bonnes personnes, tout va bien. Puis s'il y a quelqu'un qui est, hein, avec la personne avec qui on a un problème, oh, ça remonte. Voilà. Donc, à un moment donné, le pardon, c'est clé. Il y a aussi une double possibilité de victoire sur la colère au travers du pardon. Il y a une victoire lorsque je demande pardon à Dieu pour ma colère. Voilà. Donc, si moi je demande pardon pour ma colère, ça enlève tout accès au diable. Ça nous permet de retrouver aussi la paix intérieure et de recevoir les outils, les mots pour, dans sa grâce, réparer, guérir ce qui a été fendu, ce qui a été cassé, ce qui a été brisé. Alors cette semaine, pendant que je préparais ce message, c'était vraiment drôle, je me suis énervé comme rarement. Je sais que beaucoup de gens disent, je ne pense pas que lui qui doit s'énerver souvent, il ne sait pas de quoi il parle, est-ce qu'il vit vraiment ce qu'il prêche. Eh oui, je me suis énervé comme rarement quand deux de mes enfants, eux-mêmes étaient très fâchés, ils étaient vraiment en train de se taper, etc. Puis c'est venu me chercher vraiment d'un coup. Et je les ai engueulés, je les ai séparés, mais vraiment avec violence, avec beaucoup trop de violence. C'était, oh, je l'ai pris comme ça. Pff, quelle histoire. Puis là, ils ont pleuré encore de plus belle. Ça a mis une heure et demie. Mais j'en ai encore les larmes aux yeux, quoi. J'étais tellement mal avec ça. J'étais tellement pas bien. Ma colère n'était pas normale. Elle était excessive. Puis en plus, cet excès ne me ressemblait pas. C'était tellement pas ce que j'aimerais donner à mes enfants. Et j'ai même compris que ce qui a peut-être déclenché ça, c'est même que les faits de se voir se battre m'énervaient parce que c'est ce que je voulais pas. Et puis moi, j'ai réagi d'une manière inappropriée. C'est irrationnel. Alors, ensuite, j'ai pu demander pardon à Dieu. Déjà, c'est une première étape. Puis ensuite, j'ai pu demander pardon à mes enfants. J'ai pu aussi leur dire ce qui n'allait pas dans leur comportement, évidemment. Ils n'étaient pas tout blancs dans l'histoire. Mais j'ai pu vraiment leur dire que ma réaction n'était pas la bonne. Et puis, on a pu prier ensemble. J'ai fait ça séparément avec les deux, comme ça. Et puis, j'ai vraiment demandé au Seigneur qu'il ne garde rien dans leur cœur, qu'il n'ait pas accès au diable, que rien de cette réaction inappropriée reste, que ça ne mette pas un frein, une ombre dans notre relation future. Et puis, la paix est revenue après ce moment. C'était beau, c'était bon. Et vraiment, le lendemain, c'était tout neuf. vraiment, papa, je t'aime. C'était tellement bien. Le pardon permet la victoire, j'en suis persuadé. Les musiciens, vous êtes invités à revenir. Alors, je ne sais pas si vous voulez, où vous en êtes aussi, vous. Je ne sais pas si vous vous mettez en colère régulièrement, si vous luttez intérieurement avec une colère ou une situation qui n'est pas encore réglée, avec une personne, et puis ça reste là. Mais j'aimerais vraiment vous inviter ce matin à avoir un petit moment dans la présence de Dieu. On peut simplement se lever et puis fermer les yeux et dire « Pardon Seigneur, mais on ne laisse pas d'accès au diable. On ne veut pas laisser d'accès au diable. Au contraire, on veut ouvrir l'accès au Saint-Esprit. Redonner cette colère à Dieu. Demander la maîtrise de soi. Choisir le pardon. » J'ai mis simplement ce verset « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » Et je crois que c'est ce qu'il veut faire encore ce matin. Alors si vous êtes un peu en lutte avec ces colères, si ça fait écho chez vous, je vous invite vraiment maintenant dans l'intimité, alors qu'on veut encore prendre un chant ensemble, juste à vous lever là où vous êtes, on ferme les yeux, c'est juste entre vous et Dieu. Et dire « Oui, Saint-Esprit, je reconnais mes excès, je reconnais cette colère qui est encore là. Et puis ce matin, je veux te la redonner. » Ce sera un processus peut-être, mais le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut pas nous laisser avec nos colères. On veut l'inviter vraiment à nous donner cet habit qui est le sien et pas qu'on garde nos vieux habits sales ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit, dans nos vies. Merci pour tes victoires dans nos vies. Saint-Esprit, on t'invite encore ce matin pleinement à venir toucher, travailler nos vies et nos cœurs, à venir briser cette colère. Seigneur, on te la redonne. On te demande pardon pour nos excès qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas justes. Seigneur, merci de nous donner la juste attitude de cœur. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre en nous. Alléluia. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Ce matin, tu libères. Ce matin, on proclame ta victoire sur la colère. Tu es le Dieu de victoire. Saint-Esprit, souffle dans ce temps. Une fois encore, on ne veut pas tolérer nos excès de colère. On ne veut pas les justifier non plus. Mais simplement, on vient devant toi. Merci de faire ton œuvre, Jésus, dans la vie de chacun qui a fait le pas ce matin de se lever, qui a choisi de renoncer, qui a choisi de te redonner aussi les situations qui peuvent les mettre en colère. Tu prends soin ce matin. Tu es le Dieu juste, parfaitement juste.